Bien, mais avant toute chose, je vous prie d'excuser l'absence de monsieur le maire de Saint-Martin-d'Hères, mais il est actuellement au congrès de l'Association des maires de France à Paris. Donc, en tant qu'adjointe aux affaires culturelles de la ville de Saint-Martin-d'Hères, je suis ravie de vous accueillir pour cette première journée du 19e festival Les CE, Écran Total. Les précédentes éditions, donc le Montciné a déjà accueilli, c'est la quatrième fois que Montciné accueille le festival Écran Total. Les précédentes éditions se sont tenues en 2006, 2010 et 2016. Et en fait, là, c'est l'édition 2020 qui a dû être reportée d'un an en raison de la crise sanitaire. Donc l'objectif du festival est de mettre en lumière, de faire connaître l'engagement du cinéma indépendant. Alors les associations qui participent, alors l'association qui porte le festival, c'est les CE Tisse la Toile, donc en partenariat avec l'ACRIRA, qui est l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine, si je ne dis pas de bêtises. En partenariat également avec Sabatou, qui est également une association inter-CE de défense, de promotion du droit à la culture et aux loisirs. Et puis cette journée particulière, quand le cinéma reprend le travail, associe travail et culture. Donc l'idée de ce festival et de cette journée particulièrement est donc de promouvoir le cinéma indépendant, de proximité. D'ailleurs, les salles sont souvent aussi des salles ARSC ou même des salles municipales comme celle-ci. Également de faire connaître au grand public un cinéma un peu différent du cinéma fortement commercial, de promouvoir une vision plus citoyenne de l'accès à la culture et au cinéma en particulier. Et ces valeurs s'inscrivent totalement dans les valeurs que porte la ville de Saint-Martin-d'Hères à travers ses engagements en matière de politique culturelle. Donc c'est évidemment pas une coïncidence si on accueille pour la quatrième fois ce festival. Donc cette journée qui ouvre le festival va être essentiellement une journée d'échange, de débat. Il y aura une projection de film, je crois, et très centré sur les liens entre le cinéma, le travail, les évolutions du cinéma et du travail. Plus généralement, le festival sera très ancré sur des valeurs importantes de solidarité, d'égalité femmes-hommes, tout ce qui tourne également autour du travail, comme cette journée. Donc, je ne sais plus combien il va y avoir de films, 23, je crois, 7 débats, des avant-premières, des rencontres. Donc, vraiment, une semaine très, très riche qui se termine donc le 22 novembre. Donc, voilà, je ne vais pas être plus longue. Je nous souhaite une journée très riche et fructueuse et qui s'inscrit dans une semaine que je nous souhaite également tout aussi excellente.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que je n'aurais pas fait mieux. Donc enfin, nous voilà de retour. Après cette longue période d'absence, nous voilà de retour à Montciné, parce que nous avions prévu en 2020 de faire cet événement, ce festival à Montciné. Et je remercie vraiment tous les bénévoles, la CRIRA, bien sûr, les membres des CETIS La Toile, Nicolas Naudet, pour l'organisation de cette journée, parce que on a travaillé d'arrache-pied, c'est vrai, sans oublier Pascal, bien sûr. On a travaillé d'arrache-pied pour reconstruire ce festival, et quand, en début d'été, Nicolas Naudet nous a appelés et nous a proposé cette journée, où le travail et la culture se rejoignent, et nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur au cœur du festival, parce que c'est au cœur de notre projet, la création de notre projet. Donc on s'est dit banco, on y va. Et on était très, très contents qu'on puisse organiser cette journée, que Nicolas ait pensé à nous. Donc je remercie aussi Tekriak avec toute sa force et sa bonne volonté pour organiser cette journée. C'est vrai que ses équipes ont été exceptionnelles. Donc, bienvenue à toutes, à tous. On a une journée qui va être riche en débats. Et je vais laisser la parole à Nicolas.
Merci beaucoup, Henri, pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas être très, très long parce qu'on voilà, on commence à 10h15, normalement. La rencontre commence à 10h15 avec l'intervention de Jean-Paul Géhin. Juste pour vous, deux petits mots sur la rencontre, c'est la troisième rencontre d'une plateforme qui s'appelle Culture Art Travail, qu'on a initiée en 2017, qui a pour particularité d'essayer de mettre en visibilité les initiatives, les projets, les actions diverses et variées d'acteurs qui développent des projets au niveau national sur ce lien mystérieux et singulier entre culture et travail. Donc cette plateforme, elle est numérique, donc vous pouvez la retrouver sur le site de Travail Culture, travailculture.org. Donc il y a un agenda partagé où on peut découvrir des initiatives de spectacles vivants, d'expositions, des travaux de recherche sur cet axe culture-travail, une revue de presse et puis un espace avec une trentaine de partenaires, en fait, qui sont plutôt des partenaires que des membres de cette plateforme, qui tous, à des endroits, dans des contextes différents, développent des actions, des projets sur cette thématique culture, art, travail. Donc, on a des structures théâtrales, des musées, des centres de recherche. Aller faire un tour, c'est intéressant, c'est assez nourrissant. Et on s'est dit qu'à un moment donné, le numérique, c'est bien. On a vu ce que ça pouvait donner en bien et en moins bien avec la crise de Covid, mais que se voir en trois dimensions et se rencontrer, c'était mieux, que la réflexion circule bien mieux quand on se voit, quand on peut échanger d'humain à humain et pas de machine à machine. Et donc on a décidé de lancer ces rencontres, les rencontres de la plateforme Culture Art Travail. C'est la troisième, la précédente a eu lieu en 2019 sur Théâtre et Travail au Festival d'Avignon. Et donc cette année, ou plutôt l'année dernière, on avait décidé, mais pour cause de Covid, on a décalé, d'aborder les liens que tisse le travail avec le cinéma et vice-versa. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous avez le programme. Juste pour remercier à la fois la ville de Saint-Martin-d'Hères, à la fois le cinéma Montciné et Pascal Puig pour son accueil, et même plus que son accueil, son partenariat. Savatou, l'Acrira, et évidemment, les CETIS La Toile et le Festival Écran Total. Je vous souhaite une très bonne journée. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Je suis désolé, je ne suis pas un super bon élève de ce point de vue-là. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Tout de suite, l'intervention de Jean-Paul Géhin, sociologue sur les liens entre cinéma et travail. Suivi d'une table ronde avec une réalisatrice et deux réalisateurs que je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Et puis on se retrouvera cet après-midi à 15h pour une seconde table ronde, puisque la rencontre est divisée le matin sur la question des représentations du travail au cinéma en général, et l'après-midi sur les usages et les expériences que font les acteurs du monde du travail de cette question du cinéma. Comment ils s'en emparent et ce qu'ils en font. Voilà, très bonne rencontre et à tout à l'heure Jean-Paul, c'est à toi.
Voilà. Bon, bonjour et merci d'être là. On a trois quarts d'heure là pour parler des relations travail et cinéma. C'est peu et c'est aussi beaucoup, mais c'est peu dans la mesure où ce sont des relations complexes, multiples, diversifiées, et qu'on a vraiment là affaire à un vieux couple. Un vieux couple qui a bientôt 150 ans. Voilà, je vais commencer par une image sur laquelle on reviendra, parce que c'est un symbole fort de cette articulation travail et cinéma. Alors, je vous disais, une histoire commune qui est ancienne, qui est fournie, avec les deux étant symboles d'une certaine modernité à la fin du XIXe siècle. Le travail industriel et la montée du salariat d'un côté, la photographie, puis le cinéma, la photographie animée, puisque c'était ça, en fait, qui s'engageait à la fin du XIXe siècle. Donc naissent à peu près en même temps. Et cette histoire, elle mérite d'être rappelée. On va essayer de le faire rapidement. Ce qui est sûr, c'est que dans ce couple, il y a vraiment des influences réciproques. Le travail est un objet privilégié du cinéma, va être parce que c'est un objet de modernité, la société industrielle émergente, comme de l'autre côté la disparition de la civilisation paysanne, qui était tout à fait importante à ce moment-là. Et de l'autre côté, le cinéma va progressivement forger des représentations qui vont orienter vraiment des images, qui vont orienter une représentation collective et individuelle, qui notamment, on reviendra aussi dessus, est marquée par le travail manuel, la vision mécanique du travail, avec l'ouvrier enfermé dans les rouages du travail. Hein, c'est les temps modernes, et voilà, on reviendra dessus parce que c'est une image extrêmement forte. Alors, avant, bon, je vais faire un peu mon universitaire, qu'est-ce que le travail ? Bon, déjà, voilà, ça, c'est l'image qu'on a envie de donner du travail. Et c'est peut-être une image un peu fausse. En tout cas, c'est pas que ça. Le travail, c'est pas que le travail manuel. Ce n'est pas qu'un geste. Loin s'en faut. Alors, le travail, c'est quoi ? Ben, c'est effectivement ces dimensions gestuelles, mais aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les techniques, les connaissances, les savoir-faire que tout cela implique. Mais il y a aussi, donc, le travail, c'est aussi autre chose. C'est d'abord des rapports sociaux de production, des relations sociales. Ce sont des relations sociales variées. C'est de la domination, c'est de la coopération, c'est de la contractualisation, c'est aussi de la soumission, c'est des luttes. Voilà, tout ça, c'est aussi le travail. Et puis, troisième point, on y pense moins, et c'est pourtant très important, c'est le travail, c'est un ensemble de représentations sociales, individuelles et collectives, qui façonnent nos pratiques, nos comportements, c'est notre vision, notre rapport à notre travail. Et ça, c'est tout à fait aussi important et c'est quelquefois oublié. Alors, pour montrer l'importance de ces dimensions relationnelles du travail, voilà une photo de Guy Hersant. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Hersant, c'est un photographe qui fait des photographies de groupe sur le travail avec des poses. Et d'ailleurs, en jouant sur les mots, en faisant poser les travailleurs et en même temps, en profitant de la pause entre deux activités. Alors, moi, j'aime beaucoup cette photo. C'est donc le château de Vaux-le-Vicomte et c'est l'équipe des responsables. Et vous voyez, vous avez la liste des responsables. Alors, ce qui est amusant, c'est de... Ils ne sont pas dans l'ordre. Hein, la liste des responsables n'est pas dans l'ordre. C'est d'arriver à décrire qui est qui. Et vous, on va pas peut-être jouer à l'exercice là, mais vous allez voir qu'assez rapidement, on arrive à peu près à tout déterminer. Alors, c'est notre culture, hein, mais c'est on voit à peu près. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est les deux propriétaires qui sont très clairement les patrons, quoi. On les voit très bien. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais c'est un jeu amusant. Hein, c'est comme les images d'Épinal. Il faut aller chercher le gendarme dans l'arbre. Voilà. Donc, encore sur le travail, l'idée que c'est ce qu'on appelle nous travail. Principalement travail salarié, mais pas que ça, parce que c'est plus large, c'est une notion relativement nouvelle. En fait, parce que c'est une notion qui mélange dignité, liberté, contractualisation, mais aussi lutte, mais aussi droit de grève, etc. C'est une conception relativement nouvelle, hein, qui se crée à la fin du XIXe siècle. C'est en rupture avec les conceptions traditionnelles. Hein, le travail, c'était quand même principalement, dans presque toutes les civilisations, l'activité des dominés. Hein, c'est l'esclavage, c'est le servage et compagnie. C'est une conception nouvelle, moderne, et en même temps, c'est une conception qui est en crise. Qui est en crise maintenant depuis une trentaine d'années au moins. Et et parce qu'on est passé de, du déplacement d'une charge à la gestion d'un flux, du travail manuel au service aux personnes, de la cadence à la performance, etc. etc. On pourra multiplier. Bon. Mais on voit bien que à la fois moderne et à la fois en crise. Voilà. Donc on a tous, ou plus ou moins, un rapport complexe au travail entre, je disais, épanouissement et rejet. Là, je vous mets l'affiche du documentaire de Pierre Carle de 2003. Attention, danger travail. Alors revenons à notre premier film documentaire, qui est, bon, effectivement, on n'est pas loin de Lyon ici. C'est donc la sortie des usines Lumière. C'est un petit film de 45 secondes. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Alors c'est déjà, bon, déjà, le premier film, c'est une affirmation qui est très discutée. Parce que pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a inventé, à la fin du 19e siècle, on a inventé l'image animée, avec plein de procédés différents. Celui-là n'en est qu'un parmi d'autres. Thomas Edison, avant, avait fait déjà l'image animée, et puis Marais ou Demeny a aussi fait de l'image animée, et il y en a d'autres. On a donc toute une série d'images animées qui sont en concurrence. Voilà, alors, ça c'est un aspect, aussi un autre aspect, est-ce que c'est un film documentaire ? Alors, on peut revenir à notre image, est-ce que c'est un film documentaire ? Est-ce que c'est une fiction ? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que, alors, il y a de la légende dans ce qui se dit, et il y a aussi sans doute des éléments de réalité, c'est que ces ouvrières, elles sont sorties dans un premier temps, on ne les avait pas prévenues, beaucoup trop vite, mal habillées, elles se dépêchaient de sortir du travail, et ça n'allait pas. Donc, on a rejoué. Et donc, là, on a des ouvrières qui jouent leur rôle, très clairement. Elles vont doucement, elles sont habillées en dimanche. Voilà, on a donc, c'est intéressant, parce que est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est une fiction ? Eh bien, les deux, et on verra d'ailleurs que c'est souvent les deux, le documentaire, c'est jamais le réel brut, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est un film documentaire largement mis en scène, et puis, est-ce que c'est un film sur le travail ? Ben non, en tout cas, pas directement. Parce qu'il n'y a pas d'activité, on ne voit pas les travailleurs, on ne voit pas les activités de travail. C'est un film d'entreprise, c'est un film patronal, c'est un film publicitaire. Voilà, on peut peut-être retenir que c'est ça les premiers gestes cinématographiques. Voilà, alors, il faut rappeler que les inventeurs de l'image animée, ils avaient un objectif scientifique. C'était un projet scientifique. Alors, Étienne Marais montre l'invisible, notamment en montrant le cheval au galop, et en montrant, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, que jamais ce cheval est dans l'air. Il a toujours au moins une patte qui touche au sol. Ça, c'est quand même. Et donc, il y a un projet scientifique important dans le cinéma. Hein. Alors. Assez vite, avec Taylor et les Époux Gilbreth, qui sont en fait des gens qui ont secondé Taylor, la décomposition des gestes du travail devient un enjeu scientifique et surtout un enjeu économique. Hein. C'est décomposer les tâches pour supprimer les gestes inutiles. Voilà. Alors, pour en terminer avec les frères Lumière, qu'est-ce qu'ils inventent vraiment, puisqu'ils avaient l'image animée existait avant eux, ils inventent en fait la projection sur grand écran. Ils inventent la séance de cinéma et ils inventent le ticket d'entrée. Voilà, donc c'est le 19 mars 1895, au Grand Café à Paris, place de l'Opéra. Ils proposent une séance payante de 10 films. Et parmi ces 10 films, il y a donc celui qu'on a vu tout à l'heure, donc la sortie des usines Lumière, mais il y a aussi l'arrivée du train à la gare de la Ciotat. Et alors la légende, je crois que c'est plus la légende qu'autre chose d'ailleurs, dit que les spectateurs se sont cachés sous les tables en voyant arriver cette locomotive énorme. Et alors ce qui est intéressant, c'est que s'invente à ce moment-là, en quelque sorte, la fiction. Et que la fiction va, pendant un certain temps, largement dépasser le documentaire, va devenir le cœur du cinéma. Voilà, la fiction avec quand même des grands, à la fois réalisateurs et producteurs français, hein, mais Méliès, Gaumont, Pathé, voilà, c'est cette époque-là. C'est, et c'est là que se développe. Et donc, du coup, le cinéma se développe sous la forme de fiction, sous des films très courts, hein, à l'époque. Hein, c'est pas du tout, on n'est pas sur les heures. Hein, et il se développe. C'est un énorme succès populaire. C'est une diffusion extrêmement rapide des nouvelles technologies. Vous savez, on a nous vécu depuis 20 ans la diffusion du téléphone portable. Bah, ce qui se passe à la fin du 19e siècle, c'est la même chose. C'est une diffusion absolument généralisée. Le cinéma arrive partout, dans les campagnes, sur tous les continents, etc. Donc, ces images du travail sont présentes dans tous les genres cinématographiques. On va les voir les uns après les autres, parce que le cinéma, ce n'est pas que la fiction. C'est aussi des courts-métrages dits d'information ou d'actualité. Ce sont des documentaires de création, le cinéma militant, les documentaires scientifiques, et on verra à la fin qu'il faudra peut-être encore rajouter toute une série de genres cinématographiques, de genres d'images animées. Les longs-métrages de fiction. Le travail manuel, la classe ouvrière, la société industrielle sont des figures très présentes dans le cinéma de fiction de l'entre-deux-guerres. Et puis après, dans le néo-réalisme et jusque dans les années 70, on a donc une figure très présente. Alors on a deux chefs-d'œuvre qui orientent complètement notre vision de la fiction au cinéma. C'est Métropolis de Fritz Lang en 26. Et c'est les temps modernes de Charlie Chaplin en 1930. Et voilà, donc Métropolis, c'est une dystopie urbaine qui présente, avec des dominants dans une ville immense, avec des dominants aux étages supérieurs et des travailleurs relégués dans les sous-sols et en concurrence avec les robots. Et dans Métropolis, on a la première vision de robots androïdes qui sont à l'origine donc du mythe de la confiscation du travail par les robots, avec cette image là qu'on a qui s'est multipliée depuis une vingtaine d'années. Hein, le travail, c'est ça. En tout cas, ce mythe là, parce que c'est un mythe, c'est un mythe. On reviendra. Voilà. Et puis l'autre vision, mais bon, est-ce qu'il faut en parler ? Les temps modernes, hein, voilà. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est que c'est une représentation dominante, un stéréotype, mais vraiment énorme, aussi bien savant que populaire. Ce qu'on voit là, c'est un que sais-je. Hein, c'est pas. Voilà. Alors, deuxième genre cinématographique, les courts-métrages. Je vous ai mis une photo de salle de cinéma. Pourquoi ? D'ailleurs, il ressemble à celle-là un peu. Parce que on a, dès le début, dès l'entre-deux-guerres, l'institutionnalisation de la séance de cinéma, qui a disparu d'ailleurs depuis, mais qui était un élément tout à fait central de la construction du cinéma, et avec une première partie de films courts, dites d'information et d'actualité, l'entracte, avec la pub et les Esquimaux, et le long-métrage de fiction. Cette forme-là se fige dès la Première Guerre mondiale et va durer jusqu'à le succès de la télévision, les années 70, quoi, hein, voilà, c'est la diffusion généralisée de la télévision. Qui va casser ça, parce que les actualités, on les a ailleurs. Et alors, casser plus ou moins, mais qui va quand même casser. Voilà. Alors, le court-métrage, c'est, à mon avis, un élément important auquel on ne pense pas trop. Le travail, la société industrielle sont des sujets importants, hein, du court-métrage d'actualité. C'est un financement par les grandes entreprises et les ministères, souvent. C'est une valorisation du progrès technique et de la modernité. Et l'action est mise très clairement sur les machines, sur l'industrie, sur les installations industrielles. Bon, l'humain, le travailleur, se trouve souvent relégué au second plan. J'aime bien cette photo-là. Voilà, il sert en quelque sorte d'échelle à la gigantisme de l'industrie. Alors, c'est pour la recherche une source très importante d'archives visuelles. Hein. C'est vraiment là, on a énormément d'archives visuelles sur le travail. Voilà, donc là, bon, donc Donc il y a vraiment un intérêt historique pour étudier ces courts-métrages. Là, on a l'image, donc de Franjus sur d'un film qui s'appelle Le sang des bêtes, que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, un documentaire très intéressant, très important. Alors, on la voit pas bien cette image, mais voilà, on est un peu dans le réel. Hein, on a des travailleurs avec du sang dans l'activité. Et j'aime bien vous montrer mettre cette image-là en comparaison à une autre, un peu plus récente, 56. Parce que, en fait, toutes les enjeux de l'image, et notamment du film, c'est la mise en scène des groupes professionnels. Et là, on a une autre image. On est donc dans les années 50, dans l'après-guerre. On a des bouchers qui se sont enrichis qui veulent effectivement aller vers la dignité d'une profession et qui, voyez, ont inventé le tablier blanc pour montrer leur propreté et leur pureté. Voilà, donc bah c'est vrai que quand on regarde des images du travail, il faut toujours penser un peu à ça, quoi, hein. Il faut toujours penser à comment est mise en scène le travail et qui met en scène le travail. Qui d'ailleurs au pluriel souvent. Voilà. Donc toujours sur les courts-métrages, bon, je vais aller vite, là, il y a effectivement. On peut constater que, d'un point de vue cinématographique, c'est intéressant parce que ce sont des grands réalisateurs qui font leur premier essai sur le court-métrage. Hein, voilà, vous avez des grands noms là sous vos yeux, je vais passer ça. Et que, du coup, on a à la fois des films de commande et un regard d'auteur. Et alors, Le Chant du Styrène, que je vous conseille aussi, tous ces films-là sont en accès direct sur Internet. Hein. Ce film d'Alain René, qui est vraiment un film qui montre et qui pense le travail autrement. Et là, bon, c'est quand même une des premières images d'ouvriers en train de en fait, gérer des flux avec des machines. Troisième catégorie, le documentaire de création. Alors, documentaire de création, c'est inné de la difficulté, entre la prise du constat, la difficulté de saisir le réel. On ne saisit pas le réel directement. Et pour saisir le réel, il faut le construire, le reconstruire. Donc, ça implique un regard d'auteur, un regard singulier, affirmé. Et tant au moment du tournage, mise en scène, qu'au moment du montage. Alors, on a généralement deux pères. On considère qu'il y a deux pères fondateurs du documentaire de création, qui sont d'ailleurs très différents. Le premier, c'est Flaherty, Robert Flaherty, qui est un naturaliste américain, qui, avec Nanook l'Esquimau, en 1922, fait peut-être le premier documentaire de création. Et il va le faire. En faisant jouer, en fait, ces Esquimaux leur propre rôle. Mais vraiment en faisant jouer, jusqu'à leur faire faire des chasses qui n'existaient plus. Et des modes de pêche qui n'existaient plus, notamment les modes de pêche au phoque. Donc là, on a vraiment une reconstruction. Et puis le deuxième grand, le premier père, donc, hein, le deuxième père, celui-là, de documentaire de création, c'est Dziga Vertov. C'est du cinéma, c'est un cinéma soviétique, c'est le constructivisme. C'est une espèce d'utopie de l'homme à la caméra, de l'homme nouveau, de la société nouvelle. Hein. Et c'est l'idée qu'il y a un œil mécanique, qu'il y a un œil nouveau. Et là, l'enjeu de ce film-là, c'est le montage. C'est le montage, c'est la découverte du montage. Vous avez là une image magnifique d'Eisenstein, un des grands réalisateurs soviétiques. Voilà, lui-même au travail. Et une autre image, là, donc, la mise en scène du réel, donc, de Flaherty, hein, Nanook l'Esquimau. Voilà, avec ce que je disais tout à l'heure, en fait, Flaherty fait jouer aux Esquimaux une pratique qu'ils ont abandonnée. Voilà, donc le travail est très présent dans le documentaire de création, et il va notamment enregistrer une société en train de disparaître. Hein, toute la civilisation paysanne qui est en train de disparaître. Il va aussi développer développer un regard critique sur la modernité et notamment sur la misère. La misère au travail dans les mines de Lester Kay Evans ou la misère dans une Espagne extrêmement pauvre et rurale, le Buñuel. Voilà. J'en suis à la quatrième. Quatrième catégorie, quatrième genre, le cinéma militant. Il existe de longue date, le cinéma militant, mais il s'est trouvé cantonné aux marges hein, des circuits de distribution et de l'entreprise. Et il a d'ailleurs très peu montré le travail parce qu'il était interdit d'entrer dans l'entreprise. Donc on a un peu, sur les films sur le travail, on a un peu une organisation duale avec un cinéma sur le travail montrant le travail mais contrôlé par les entreprises et un cinéma plus critique, plus engagé sur le travail mais qui a du mal d'entrer dans l'entreprise et donc qui est plus centré sur les luttes et les conflits. Il faut quand même noter une phase d'expansion à partir des années 60-70 qui sont en partie liées alors d'une part quand même au mouvement social, mais aussi au progrès technologique. Hein. Voilà, dans les années 60, s'invente du matériel, du son synchrone, des caméras à l'épaule, etc., qui permettent effectivement de donner un peu la parole. Encore que ces pressions, je ne l'aime pas trop. Donc voilà, renouveau du cinéma militant. Alors deux grands noms, un grand nom surtout, hein, les groupes Mavetkin, donc amenés par Chris Marker. Et c'est une rencontre entre cinéastes, il y avait Godard, intellectuels, ouvriers, etc. Et on va effectivement produire des images du travail en lutte, des travailleurs en lutte, par les travailleurs eux-mêmes et les travailleuses, ce qui est une grande nouveauté. Et en 76, Gatti qui propose là aussi une nouveauté à un groupe d'ouvriers de chez Peugeot. De filmer et ce sont des ouvriers migrants, de filmer leur travail. Et ça, c'est assez nouveau aussi. C'est moins connu, le lion, sa cage et ses ailes, et c'est vraiment des films que je vous recommande aussi. Voilà. Dernier point, le film scientifique. Alors, c'est pareil, à très tôt, alors ça, c'est le côté documentaire de l'idée de l'image animée, hein. Le cinéma est un outil de vulgarisation, surtout utilisé par les sciences de la matière et de la nature. On va montrer les avancées de la science. Mais en même temps, en ethnologie, en anthropologie, puis plus tard en sociologie, la caméra permet de saisir la société, et là, en ethnologie, des sociétés et des civilisations en voie de disparition. Et voilà, c'est une espèce de cinéma de sauvegarde. Il faut sauvegarder. Voilà. Alors j'aime bien cette photo, elle est un peu ridicule, mais elle est intéressante quand même, de Malinowski. Malinowski, c'est vraiment un grand ethnologue, un des grands anthropologues du début du XXe siècle. Voilà, le voilà. Alors, il sait se mettre dans ce qu'il observe. Il est un des premiers qui a dit qu'il fallait que l'ethnologue, le sociologue, le scientifique se réfléchisse à sa place dans ce qu'il observe. Donc il est là. Alors effectivement, il a un peu tendance à se ridiculiser en étant le colon au milieu des sauvages. On peut d'ailleurs se demander qui sont les sauvages, mais voilà. Alors oui, donc le cinéma scientifique, il va connaître le même renouveau que le cinéma militant dans les années 60, hein, avec les nagras, son synchrone, caméra plus légère et performance, etc., etc. Vraiment, on a quand même un saut technologique qui transforme hein, le cinéma scientifique. Des petites équipes, cinéma direct, on peut aller vers les gens, leur poser des questions, recueillir leurs paroles. Alors bon, deux grands noms, Jean Rouge, qui a fait tout un cinéma formidable dans les années 50, 60, 70, hein, notamment sur l'Afrique. Et puis, un film quand même clé, Chronique d'un été, de Jean Rouch et d'Edgar Morin. Voilà. Qu'on a appelé cinéma du réel. Moi, je préfère qu'on appelle ça cinéma direct. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un sait combien de temps je parlais, là ? Quoi ? Donc, on a encore 20 minutes. Oui, donc il faut que je me dépêche si on veut avoir un peu un échange à la fin. Voilà. Alors voilà, on est sur l'élément essentiel que je voulais développer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une espèce de disparition du travail dans le cinéma qu'on va noter dans les années 80 et puis son retour, moi je dis 2000, c'est plus... C'est net comme date. Bon, naturellement, ça se discute. Hein. Dans les années 80, donc, on a une disparition de l'image du travail et des travailleurs dans la fiction. En tout cas, vraiment une réduction très forte. C'est... Alors, pourquoi ? Je pense que c'est dans un contexte d'invention d'une opposition entre travail et loisir. Et donc, du coup, le travail n'est plus sujet intéressant, c'est plutôt les loisirs. Les loisirs, c'est... Alors, voilà, je vous ai mis l'an 01, quoi. On arrête de travailler et on commence à penser. Voilà, c'est... Alors, ce mouvement, comment l'expliquer ? Alors, bon, ouais, sans doute un retour de bâton de l'après-mai 68, hein, qui avait valorisé la classe ouvrière et les luttes. Vraisemblablement aussi, cette idée d'invention du temps libre... rappelez-vous, hein, on n'est pas mal ici à pouvoir s'en rappeler, en 81, on invente un ministère des temps libres. Premier gouvernement maurois, c'est invention du ministère des temps libres. Il n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas s'il était censé remplacer le ministère du Travail. Je n'irai pas jusque-là. Voilà, et puis, bon, et puis après, ce qu'on peut dire aussi, quand même, comme explication de ça, c'est qu'on a la montée de la crise économique et sociale. Et qu'on passe du travail au chômage, à la précarité, à la pauvreté, à l'exclusion. Hein, voilà, il y a un glissement. Voilà, alors la fin du travail, là aussi une photo d'un film très important, reprise d'Hervé Leroux, 96, à partir de films tournés par des étudiants en cinéma en 68, à la reprise du travail aux usines Vonder, voilà, à Saint-Ouen. Voilà, donc il y avait quand même cette idée forte sur laquelle on est largement revenu, cette idée forte, y compris donc parmi les intellectuels, que le travail était en voie de disparition, qu'on était à la fin du travail, en tout cas le travail comme temps, espace dominant. Voilà, c'était, et qu'on allait passer à un autre temps, espace dominant. Alors là, c'était les loisirs, c'était la télé, c'est bon. On ne sait pas encore. Hein, bon, peut-être que ça va arriver. Ça n'est pas arrivé pour le moment. Le retour du travail au cinéma, alors bon, moi, franchement, je le mets toujours 2000, ressources humaines, Laurent Cantet. Voilà. Je pense que c'est important parce que sur la thématique, hein, c'est la rencontre d'un jeune diplômé qui fait un stage d'entreprise dans l'entreprise de son père, où son père est ouvrier, un ouvrier modèle. Et c'est la confrontation de ces deux éléments-là. C'est une fable moderne. Et voilà, c'est important. C'est donc une confrontation intimiste entre le père et le fils. Alors, je mets Laurent Cantet, mais on aurait pu aussi parler naturellement de Ken Loach, des frères Dardenne. Voilà, donc on a, et puis aux États-Unis et un peu partout, donc on a un retour massif des thématiques autour du travail, la GRH, important, les gestions des ressources humaines, important, hein, qui est une thématique nouvelle et importante à ce moment-là, chômage, précarité, exclusion aussi, mais voilà, avec un retour quand même du travail et du travailleur dedans. Alors toutes les professions sont abordées dans ce retour massif. Parce que, bon, le travail dont on parlait quand même avant les années 2000, c'était d'abord le travail ouvrier. Voilà. Et là, on a vraiment un élargissement très fort. Hein. Et donc là, on a du travail ubérisé aux traders. Il y a eu beaucoup de films sur les traders, par exemple. De l'agriculture à la santé, en passant par les artistes, etc. On pourrait multiplier. On sait tous qu'aujourd'hui, toutes les activités de travail sont montrer au cinéma et peuvent faire des objets cinématographiques importants. Voilà, et avec, c'est discutable, mais je pense que c'est quand même important, avec un retour quand même, à mon avis, du conflit des classes sociales. Ah non, là je me suis trompé de sens. Voilà. Voilà, je vous ai, juste quelques images des frères Dardenne, des films des frères Dardenne. Ce qui est intéressant, c'est que les frères Dardenne ne montrent pas le travail, en fait, rien du tout. Mais ils s'attachent à des gens ballottés par l'histoire et par l'économie. Voilà, avec, oui, oui, avec Rosetta, naturellement, en premier, mais tous les autres acteurs, tous les autres acteurs, plus ou moins. Alors, ce qu'invente aussi ce retour du travail dans la fiction, c'est sans doute de nouvelles perméabilités entre documentaire et fiction. Un retour à des acteurs non professionnels, une utilisation de techniques ici du cinéma direct, hein, petite équipe, caméra à l'épaule, etc., et une mobilisation des méthodes et savoirs issus des sciences sociales. Voilà, donc je vais peut-être aller vite là-dessus. Une liste de documentaires qui vont renaître, qui vont faire la, signaler un peu la renaissance du documentaire sur la crise du travail. Voilà. Avec effectivement des quelques grands films qui situent ça. Une production intensive. Oui, moi, je pense que cette production, elle est d'autant plus intensive qu'elle repose en partie sur une tradition de documentaire de création qui analyse les institutions. Et, dont on peut, et donc, en analysant les institutions, il parle aussi des acteurs et donc des salariés de ces institutions. Et on a donc Nicolas Philibert, Raymond Depardon, et puis, et bien entendu, Frédéric Wiseman aux États-Unis, et puis Wang Bing en Chine, et puis d'autres aussi. Et puis en France aussi, toute une série de productions qui effectivement se centrent vraiment sur le travail. Voilà, avec des gens qui sont dans la salle. Je ne citerai pas. Je vais faire plutôt un peu de communication, un peu de publicité sur ce que je fais. Là, c'est une revue qui s'appelle Images du travail, travail des images, que je co-dirige. Et qui parle du cinéma, mais qui parle aussi d'autres choses, hein, de toutes les images, toutes les formes d'images, y compris les bandes dessinées, etc. etc. Et qui, voilà, qui montre quand même l'intérêt croissant des sciences humaines sur les images animées. Hein. Donc c'est une revue, Images du travail des images, qui est pluridisciplinaire, qui est en ligne, qui est ouverte. Vous pouvez aller la consulter comme vous voulez. Voilà, qui d'ailleurs aussi, juste un moment de pub, a une rubrique qui s'appelle Un œil, une image, qui est une rubrique, ce sont des articles courts, avec une image centrale et une page, c'est 3000 signes, une page de commentaire de cette image. Alors, j'en parle là parce que c'est une rubrique qui est vraiment ouverte, pas qu'aux chercheurs, qui est aussi ouverte à des professionnels de l'image, à éventuellement des professionnels du travail. Voilà, ça nous paraît important aussi que c'est un lieu, cette revue, c'est un lieu pluridisciplinaire, hein, mais c'est aussi un lieu d'échange entre recherche et ce qu'on peut appeler les professionnels de l'image et les professionnels du travail. Voilà. Donc voilà, c'est un appel à faire des propositions. L'intérêt donc pour le travail se confirme. Oui, alors si on regarde ce qui se passe dans les 10 dernières années, on voit bien que l'intérêt pour le travail se confirme dans le cinéma. Avec cette idée un peu, moi, qui me semble importante, le travail envahit notre quotidien et le cinéma en rend compte de plus en plus. Et notamment, donc, on a de plus en plus de films qui abordent des questions qui sont a priori éloignées du travail, mais qui en fait recontextualise cette question-là dans le travail qui est l'espèce de qui est plus que le contexte en fait, hein, qui est une toile de fond du récit et qui oriente les comportements des gens. Je donne l'exemple moi souvent de Mia Madre de Nanni Moretti en 2015 où c'est un film en fait sur une réalisatrice, Margarita, qui est en crise, qui est en crise parce que son père est en train de mourir, parce que ses enfants grandissent trop vite, parce que son mari, etc., etc. Oui, son père. Sa mère, oui, excusez-moi. C'est sa mère, je me trompe. Merci. Et qui est en plus au bord du burn-out professionnel. Et voilà. Et donc, on voit bien comment ce film, L'air de rien, dresse un tableau réaliste et subtil du travail au féminin. Et voilà, c'est toujours en faire plus pour justifier sa position sociale, notamment le travail des cadres, hein, des femmes cadres, poids du travail domestique, perméabilité entre sphère publique et privée, etc. Voilà, alors, Henri, en guise de conclusion, je voudrais poser deux questions. Pour continuer un peu sur où va la relation image-travail. La première question que j'ai pas traitée là, et qui est une question à mon avis qu'il faut qu'on traite et que peu de gens traitent aujourd'hui, c'est la question de quid des nouvelles images. Qu'est-ce qu'on fait des nouvelles images? Comment intégrer l'analyse de la relation entre cinéma et travail, ces nouvelles images? Et je vais revenir dessus. Et la deuxième question, c'est comment évoluent les représentations collectives qui orientent notre rapport au travail. Voilà. Donc on a deux questions là. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont reliées. Elles le sont sans doute, mais voilà. Alors la première question, c'est un constat. Aujourd'hui, on n'est pas seulement des consommateurs d'images, on est des producteurs d'images, tous dans cette salle, d'images animées. Il y a une extension considérable du domaine de l'image animée. Comment on peut penser aujourd'hui la production audiovisuelle par monsieur et madame tout le monde, nous tous? Que faire et comment analyser la multitude des séquences filmées sur Internet, les réseaux sociaux? Quelle place y occupe le travail? Sans doute moins négligeable qu'on ne le croit. Sans oublier les images produites par les jeux vidéo. Un monde. Les jeux vidéo, c'est un monde. Hein. C'est aussi gros que le cinéma en monde d'images animées. Les mondes virtuels, les caméras embarquées, les caméras de surveillance, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images-là, qui sont multiples? J'aime bien cette image-là aussi, je vous ai montré des images que j'aime bien. Alors c'est une image de publicité, mais c'est aussi une image étrangement sauvage et normée. Voilà, c'est des images embarquées, hein, c'est des caméras embarquées, bien sûr. Et puis, deuxième question, est-ce qu'on est, on peut faire le constat encore aujourd'hui que l'image taylorienne du travail mécanique est encore forte, est encore dominante, ou en tout cas est encore une place importante. Et on peut se demander si... Alors pourquoi déjà? Parce que quand même, ce n'est plus le travail majoritaire, en tout cas dans sa forme a priori. Et on peut se demander pourquoi, et on peut se demander s'il y a d'autres images qui sont émergentes. Est-ce qu'on a d'autres représentations, imageries, iconographies sur le travail qui sont émergentes? Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai parlé très longtemps. Non, il y a quand même le temps d'avoir quelques questions à la salle. On me fait des signes que non, quand même, c'est pas gentil.
En fait, ce que l'on propose, du coup, c'est que... Parce que pas mal de choses que vous avez dites peuvent aussi, je pense, donner envie aux réalisateurs invités d'intervenir. Et peut-être qu'on a prévu en fait une demi-heure avec les trois réalisateurs et ensuite un échange d'une heure avec la salle. Donc peut-être dans cet échange, on peut inclure des questions qui vont être en lien avec ce que vous venez d'évoquer là. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que quelqu'un a vraiment une question indispensable à poser tout de suite? Il se dit que c'est le moment ou jamais, et après, ça sera plus trop le même sujet. Je ne vais pas vous empêcher quand même de vous exprimer. Si... Ça va, on enchaîne comme ça?
On enchaîne comme ça.
Bon, d'accord. Merci beaucoup. Alors, attends, on va faire le son.